pour investir, le placement à suivre.
Avec Eric Lewin de Bourse Direct. Bonjour mon cher Eric.
Salut mon cher Antoine.
Ça va bien ?
Ouais, très bien, écoutez, comme les marchés.
On n'est pas trop mal, hein, effectivement. Avec un... si on regarde la semaine écoulée, on a un CAC small et mid qui est en hausse de 3%, CAC small plus 3,5%. Le CAC 40 lui fait 0,35, mais se porte quand même bien malgré les fluctuations. Donc on peut dire qu'on a encore une fois une jolie surperformance des small et mid cap de nos petites et moyennes capitalisations.
Bah oui, écoutez, d'autant plus que depuis le début de l'année, le mid and small gagne 3,4%, le CAC small 2 et le CAC 40 1,9%. À noter cette semaine, on n'en a pas parlé beaucoup, que Poulaillon, c'est une entreprise alsacienne de boulangerie et de produits traiteurs d'Alsace, va quitter la bourse. OPA sur les 24% non détenus à 9 € par action, c'est une prime de 28,6%. Et que disent nos amis de Poulaillon? Pourquoi ils quittent la bourse? Coût élevé, contrainte. Et surtout, pas d'appel au marché depuis la première cotation en 2015. Donc pour Poulaillon, bien évidemment, aucun intérêt de rester en bourse. Ouais. Et ça pose bien évidemment le problème des coûts, des contraintes, etc., etc., qui fait qu'il y a peu d'introduction en bourse et qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont envie de quitter le marché financier. Donc c'est le cas de Poulaillon. Bonne opération quand même pour les investisseurs qui étaient dedans, puisque la prime est de 28,6%.
Ouais, c'est une jolie prime, effectivement, mais oui, c'est toujours le même problème de la réglementation, des coûts. La bourse, c'est pas gratuit, hein, ça permet de lever des capitaux, mais à quel prix, surtout pour des petites entreprises. En revanche, il y en a une qui est en train de récolter des fruits de dizaines ou de quinzaines d'années de développement, c'est Ribair. Et là, on a beaucoup de questions, Eric. Ribair gagne 70% en une semaine. En 5 ans, je crois qu'on dépasse les 1000% de hausse. On parle là d'une machine, d'un fabricant de machines pour le secteur des semi-conducteurs avec des technologies vraiment disruptives. Il y a quand même des investisseurs et des analystes qui sont venus sur ce plateau qui se sont dit « Ouais, mais Ribair, leur chiffre d'affaires, en 10 ans, il a grimpé de voilà, 10-15%, pas plus. Est-ce que ça vaut une hausse de 1200%, Ribair ?» Alors que c'est très prometteur, mais c'est quand même très volatile comme activité, non ?
Oui, alors écoutez, juste un mot avant de parler de Ribair. En fait, en ce moment, mon cher Antoine, il y a une folie autour des small caps liées à l'essor de l'intelligence artificielle. C'est une dinguerie. J'ai regardé avant de parler de Ribair quelques valeurs. Calray, 350% depuis le début de l'année, ils sont spécialisés dans ce qu'on appelle les DPU, le segment clé pour les data centers, il y a. De CRSI, 236% depuis le début de l'année, on est dans les serveurs haute performance sur mesure. Semco Technologies dans le monde des semi-conducteurs, plus 62%. C'était Semco l'une des dernières IPO à Paris. Et puis donc, ce fameux Ribair, 267% depuis le début de l'année. Alors, ce qu'il faut dire, bon, c'est un fabricant de machines de ce qu'on appelle l'épitaxy par jet moléculaire. J'ai été chercher, bien sûr, pour savoir.
Il faut aller sur Indico, là. Oui.
Bah ouais, non, parce que sinon, je donne des termes et personne ne comprend rien. Mmh. En fait, c'est une technique utilisée en physique des semi-conducteurs pour fabriquer des matériaux ultra précis, couche par couche. Alors, en fait, tout est parti de quoi? Du 8 avril. De très bons résultats. Alors, certes, le chiffre d'affaires depuis 3 ans, il y a vraiment que dalle, si vous me permettez cette expression, il est stable. Mais les investisseurs croient en la nouvelle machine qui s'appelle Rosy. Ouais. Qui est spécialisé pour conquérir le marché de la photonique sur silicium qu'on utilise beaucoup pour les datacom dans le calcul quantique. Et c'est vrai que les résultats 2025, quand vous voyez ce qui se passe, vous vous dites, non mais attendez, c'est quand même complètement dingue, parce que quand vous regardez les résultats 2025, résultat net en hausse de 27% à 5 millions d'euros, c'est bien. Taux de marge brute qui passe de 36% à 38,5%, c'est bien. Mais est-ce que ça vaut la folie qu'on a connue cette semaine et surtout les 267% depuis le début de l'année? Moi, je pense pas. Mmh. On est sur un PER supérieur à 50 sur 2025, 40 sur 2026, mais là encore, c'est beaucoup d'espoir. C'est-à-dire, qu'est-ce que se disent les investisseurs? D'abord, c'est quand même des petits marchés, parce qu'on n'est pas dans des capitalisations de 15, 20 milliards, c'est des petites capis. Mais qu'est-ce qu'ils disent les investisseurs? Vous êtes un investisseur, vous n'avez pas envie de louper le coche, et donc vous achetez les 4-5 boîtes qui sont dans le secteur en vous disant, de toute façon, s'il y en a une qui sort, elle fera 800%, et si les autres, ça marche moins bien, ça fera moins 80. C'est ce qu'on avait connu, vous rappelez, quand on bossait ensemble sur BFM lors de la bulle Internet, où tout le monde achetait tout, et puis il y en avait une ou deux qui sortaient, et puis celui qui était placé sur les une ou deux qui sortaient, finalement, gagnaient beaucoup d'argent. Alors, sur Ribair, moi, je considère, je me suis fait taper sur les doigts, sur X, un peu partout, en disant que j'étais nul, etc. Je considère qu'une boîte, quand même, qui gagne encore 12% aujourd'hui, qui vaut 306 millions d'euros de capi, qui gagne 310% depuis le 1er janvier, 79% une semaine, faut prendre des bénéfices. Je le disais lundi chez Guillaume, ça valait 11,78, ça vaut 14,38. Je persiste et signe. Attendons de voir les livraisons de machines. C'est vrai que c'est un beau dossier, mais en termes de valorisation, moi, j'arrive pas à y aller. Moi, j'arrive pas à aller sur un PER de 50.
Ouais,
d'autant c'est, plus c'est que le chiffre d'affaires cette année, il va pas doubler, on fera quoi? Plus 20. Plus 20 ou plus 25%. Donc bon, écoutez, je laisse la folie s'emparer de tout le monde et puis on verra quand la raison l'emportera à nouveau. C'est quand même un très beau dossier. Je veux pas être méchant, je veux pas être le type qui est passé à côté et qui est un peu aigri. C'est un très beau dossier, mon cher Antoine, ouais. mais c'est très cher.
Bon, et puis on va parler d'un secteur peut-être un petit peu plus défensif, la restauration collective. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'Elior, de Sodexo. Catering, plus 20% en un mois. C'est une valeur qu'on a tendance à un petit peu ignorer dans ce secteur, mais qui garde des atouts, sa dimension, sa gestion. Ça a l'air d'être une boîte intéressante.
Oui, alors vous savez, Catherine, c'est spécialisée dans la gestion de base de vie en milieu extrême.
Ouais.
Grosso modo, vous êtes sur une plateforme offshore au large de la mer d'Oman, figurez-vous, qui s'occupe de tout, la restauration, l'hôtellerie. Il y avait, vous rappelez, des déboires quelques années, je crois qu'il y avait une prise d'otage en Algérie de sinistre mémoire. Non, ce qu'on peut dire, c'est que ça marche très bien. L'année 2025 a été excellente. Le titre a touché hier un plus haut depuis 5 ans. Chiffre d'affaires en hausse de 16%, 489 millions d'euros, montant en puissance de contrat en Afrique et en Eurasie. Hausse de l'EBITDA de 40%, marge qui gagne 150 points de base. Que dire de la hausse du résultat net, plus 86% à 9 millions d'euros. C'est pas cher. PER de 13. Et surtout, comme il y a beaucoup de trésorerie, je crois qu'il y a autour de 50 à 60 millions de cash, on a une VE sur EBITDA de l'ordre de 2. Donc ça peut continuer. À noter que le fondateur, c'est Régis Arnoux, qui doit avoir au-dessus des 80 ans. Il m'a toujours dit qu'il n'avait pas envie de vendre sa société, mais sait-on jamais. Donc il y a peut-être une petite dimension aussi spéculative sur CIS, Catering International Service, qui est une boîte basée, on en parle peu, à Marseille, sur le Vieux-Port, enfin pas loin du Vieux-Port.
Bon, société intéressante, hein, Catering, plus 20% en un mois. Ben, merci Eric d'avoir un petit peu défriché le terrain sur ce monde des small et mid-cap, comme toutes les semaines. On vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, petite pause. Ben, restez à l'écoute, Eric, parce qu'il y a un sujet qui va vous intéresser. On va parler belles montres de collection. Et voilà, ça nous intéresse tous. Mais attention, les montres de collection liées au monde automobile. On sait que les deux histoires sont intimement liées.